Voilà, bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième rencontre de l'Ardent de ce semestre d'été. C'est vrai que la chaleur estivale est venue là. Certaines personnes qui voulaient venir ont été tenues par la douce chaleur qui est vraiment agréable. Ce soir, c'est une rencontre un peu particulière à plus d'un titre. Et j'allais dire, plus que particulière, presque extraordinaire. Pourquoi ? D'abord, la bibliothèque a un attachement tout particulier au sujet, plutôt au fond, qui a inspiré le sujet, puisque nous avons dans notre institution un fonds René Devecque. Et M. Lesbard, le conservateur des manuscrits, nous a mis quelques pièces du fonds René Devecque qui a été traité dans la vitrine qui se trouve au fond de la pièce que vous pourrez regarder tout à l'heure à la fin de la conférence. La deuxième chose, c'est que lors de la publication de cet ouvrage, nous avons été la bibliothèque co-éditrice puisque nous avions un projet d'exposition, il y a eu quelques turbulences, et puis finalement, l'exposition n'a pas eu lieu, mais la trace reste, c'est le livre qui est paru aux éditions de l'Aide, et tout à l'heure, le patron des éditions de l'Aide, M. Ayer Maclay, dans l'impondérable, il est sur le salon du livre, qui va ouvrir ses portes, et il regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Et puis je crois qu'il y a deux, trois éléments encore d'ordre, j'allais dire, assez symbolique par rapport à cette aventure. Philippe, que j'ai rencontré pour préparer l'exposition qui n'a pas eu lieu, pour préparer l'édition, et en lisant le début du livre, j'ai compris qu'il ne remuait pas les cendres, mais il maintenait la flamme. Je m'explique. Il a trouvé, il avait vu dans la bibliothèque paternelle, le nom de son papa, René Devecque, sur la tranche du livre. Et c'est vrai qu'il a interrogé son papa et il a compris que ce n'était pas papa qui écrivait, mais que c'était un grand-oncle. Et alors le petit-neveu reprend la femme et se dit « je veux savoir la vérité de cette aventure littéraire et autre ». Et c'est un peu ce travail de mémoire qui va être cette interrogation. Et je trouve assez fascinant qu'un travail de mémoire soit édité. Souvent, je pense au mien surtout, les travaux de mémoire de licence ont une lectrice particulière. J'allais dire une lectrice fidèle, pas la maman. La poussière, hein, sur les étagères du goulag intellectuel que sont les compactus. Et très rares sont les mémoires de licence qui ont une aventure éditoriale qu'on trouve et qu'on peut se procurer. Souvent, comme je vous le disais, ils sont et finissent calmement dans des compactus. Donc, c'est une aventure assez extraordinaire, le cheminement d'une aventure personnelle, d'une aventure éditoriale, et puis d'une aventure, entre guillemets, de grande curiosité. Et je crois qu'on peut encore dire une chose qui est assez fabuleuse, c'est qu'on fête cette année les 90 ans où l'écrivain René Devecque, ou Mercure de France, le célèbre Mercure de France, n'oublions pas qu'à l'époque où il va être chroniqueur au Mercure de France, le secrétaire de rédaction, c'est qui ? C'est Paul Lyoto. Et au Mercure de France, ont gravité un peu tous les grands écrivains du siècle. Donc, en 1913, c'est-à-dire il y a 90 ans, il commencera son travail de chroniqueur pour la Suisse romande au Mercure de France. Et dans la préface, ou plutôt une petite citation qu'il met, que Philippe met dans le livre René Devecque, chroniqueur au Mercure de France, il y a quelque chose qui est assez chouette et ce qui a permis d'instiguer peut-être le titre de la conférence. Si d'aventure, tout ce que j'ai livré jusqu'à ce jour aux presses des imprimeurs constitue un ensemble susceptible de tenir en éveil, après ma mort, la curiosité ou la sympathie de quelques-uns, j'imagine que ces bienveillants lecteurs éprouveraient une certaine difficulté à discerner mes intentions secrètes. Et ce soir, Philippe a tenté de nous les livrer. Merci beaucoup.
Voilà, bonsoir. Je ne sais plus tellement quoi dire maintenant que M. Schmutz a déjà tout dit. J'espère juste être à la hauteur de la réputation qu'il vient de me faire. Là. Je profite d'être dans les murs de la bibliothèque pour dire tout d'abord un triple merci à la bibliothèque. Merci de m'avoir invité ce soir, même s'il m'a fallu faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver jusqu'ici. Un grand merci à M. Lesbard qui m'a aidé lors de ma recherche lorsque je consultais le fonds René Devecque qui se trouve dans les archives de la BCU. Et un merci à la bibliothèque qui, bien sûr, m'a aidé à publier mon travail de licence. J'étais en Russie il y a quelque temps, et je le suis d'ailleurs toujours, même si ça ne se voit pas en ce moment, lorsque j'ai reçu un coup de téléphone de M. Schmutz, qui me dit « Philippe, pour cette conférence, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un titre, Les intentions secrètes d'un homme de lettres, est-ce que ça te va? Moi, j'avais la tête un peu ailleurs, j'ai dit oui, oui, pas de problème, j'étais très distrait, j'ai pas tellement réfléchi, j'ai dit on y va comme ça. Et puis, soudainement, j'ai trouvé le lien qu'il y avait entre ce titre qu'il m'avait proposé et le sujet de cette conférence, et mon travail. J'ai même découvert où il avait trouvé ça, d'ailleurs il vient de vous le lire. Le malheur, c'est que moi aussi, j'ai cette citation au début de mon travail. Enfin bref, je ne vais pas répéter ce que M. Schmuntz a déjà dit, ça me sabre déjà la moitié de ce que je devrais dire, mais ce n'est pas grave, je vais essayer d'improviser. Je vais reprendre peut-être la citation qui se trouve effectivement dans le fonds d'archives de la bibliothèque. Ce fonds d'archives comporte plusieurs documents très intéressants. Il y a d'ailleurs tous les manuscrits de romans de René Devecq, tous les articles, toute sa correspondance avec les différents auteurs de l'époque, les auteurs romans, les auteurs français, quelques bribes de conférences et surtout les journaux intimes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Qui a donné lieu d'ailleurs à un travail de M. Simon Roth, ici présent ce soir. Et au milieu de ces journaux intimes, j'ai trouvé quelques papiers qui s'intitulaient « Sur moi-même », où l'auteur, dans les années 1930-1932, alors qu'il est au sommet, entre guillemets, de sa carrière littéraire, se prête au jeu des miroirs et essaye de voir un peu qu'il... Il se pose d'ailleurs cette question qui est la question principale de cette citation sur sa postérité littéraire. Alors je me permets de relire, j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop, la citation que M. Schmuntz a déjà lue. Mon œuvre se peut-elle qu'elle me survive? Je n'en sais rien, mais je mentirais à moi-même si j'écrivais que je ne la désire pas. Si d'endure tout ce que j'ai livré jusqu'à ce jour aux presses des imprimeurs constituait un ensemble susceptible de tenir en éveil après ma mort la curiosité ou la sympathie de quelques-uns, j'imagine que ces bienveillants lecteurs éprouveraient une certaine difficulté à discerner mes intentions secrètes et surtout à établir un lien solide entre l'œuvre et l'artisan. Pour revenir à cette citation dont j'ai parlé, la question principale est effectivement une question de postérité littéraire. Mon œuvre se peut-elle qu'elle me survive ? Malheureusement, la réponse est non. Même s'il a eu son heure de gloire à son époque, René Devecq a malheureusement assez vite disparu dans l'oubli. L'intérêt, je voulais aussi en parler, mais il a déjà raconté l'anecdote de moi, tout petit enfant, qui découvre les livres de mon grand-oncle dans la bibliothèque de mon père. C'était, moi, ma première découverte de René Devecq, ses livres, qui étrangement n'était pas écrit par mon père, qui porte le même prénom, mais par un grand-oncle que je ne connaissais pas. Établir un lien solide entre l'œuvre et l'artisan, il se pose une question un peu étonnante, parce qu'en fait ce n'est pas très difficile de découvrir les intentions secrètes de René Devecq, on va voir pourquoi tout à l'heure. René Devecq, malheureusement un peu disparu des registres littéraires romans, on associe souvent son nom à Léon Savary, comme un des premiers peintres de la vie fribourgeoise. En effet, il y a deux romans de René Devecq qui nous parlent de ce microcosme fribourgeois d'avant-guerre, qui sont « Jeunesse de quelques-uns » et « Un fou revient parmi les sages ». On l'associe également à celui de Gonzague de Reynold, comme faisant partie du patrimoine littéraire du canton. Mais René Devecq, contrairement à ses deux contemporains, n'a jamais vraiment occupé les devants de la scène littéraire. En tout cas dans une moindre mesure. On se souvient sans peine de la verve de Léon Savary, on se souvient des thèses controversées de Reynold, mais qui s'intéresse aujourd'hui à René Devecq? Malheureusement, pratiquement personne. Déjà en 1930, dans ce même manuscrit qui s'intitule « Sur moi-même », il met en scène sa mort, et il se demande ce qui pourra bien advenir de son travail d'écrivain. Et il dit « Il est fort probable que 15 jours après l'événement, je serai complètement oublié, même de la plupart des gens qui me connaissent. » Malheureusement, il ne s'est pas trompé. Le futur n'a pas démenti cette citation visionnaire. Il en a eu d'autres, plus intéressantes, mais ça répond au domaine historique et aujourd'hui je ne m'occupe que du domaine littéraire. Bien sûr, on a... le nom de René Devecq dans quelques rétrospectives sur la littérature romande, dans les histoires littéraires. Il y a même quelques poèmes qui ont trouvé place dans des anthologies. Mais l'écrivain est malheureusement oublié. Il ne fait pas mentir cette statistique qui nous dit que 80% des ouvrages sont oubliés l'année de leur parution. Malheureusement, c'est également ce qui lui est arrivé. Et pire encore, 99% d'entre eux lors de leurs 20 premières années d'existence. On doit se rendre à l'évidence, dans le grand train de la littérature française, René Devecq semble bel et bien appartenir au dernier wagon, celui des écrivains oubliés. Mais comme le dit le critique littéraire Tadier, il faut des centaines d'écrivains pour faire un grand artiste, ce qui lui fait déjà un mérite. Mais qui sont ces artistes qui prennent la place principale dans cette littérature romande de l'entre-deux-guerres? Il y a des problèmes d'écoute. On entend très mal, peut-être je parle plus fort. Je parle. Donc qui sont les grands artistes qui émaillent le paysage littéraire de l'époque de l'entre-deux-guerres? Il y a bien sûr Ramu, que tout le monde connaît, Sandrart. Les trois ont marqué leur temps de leur génie indélébile. Ils ont évincé de la mémoire collective une foule d'écrivains romans. Dans un court article, d'ailleurs, Roger Francillon a tenté de dresser une liste de ses principaux auteurs oubliés, qui sont Robert de Traa, Jacques Chenevière, Henri de Sigler, Léon Bopp, Emmanuel Boinzo, il y en a beaucoup, et René Devecq. Il a cherché de comprendre le pourquoi de cet oubli, et voici sa conclusion. Qu'est-ce qui assure la survie d'un écrivain, surtout en Suisse romande? Il faut distinguer d'abord des facteurs intrinsèques aux œuvres. Un texte littéraire tombe dans l'oubli du moment où il ne prête pas à de nouvelles lectures qui font apparaître de nouvelles significations. L'œuvre durable est celle dont les interprétations successives se transforment au fil des générations parce que son sens latent permet ses incessants avatars. Les œuvres trop marquées par la mode littéraire de l'époque où elles sont nées sont très vite réduites à l'état de documents historiques. Mais il est également des facteurs extrinsèques qui peuvent défavoriser le rayonnement posthume d'une œuvre, la politique à courte vue des éditeurs, prisonniers des modes, le manque d'un authentique milieu littéraire particulièrement sensible dans la Romandie morcelée, ou encore le statut hybride de l'écrivain suisse à Paris. La plupart de ces remarques générales, on peut bien sûr les appliquer à René Devecq, mais il y a d'autres raisons qui sont cette fois plus particulières au personnage de René Devecq, qui a précipité son oubli. Un point à peine précisé par Roger Francillon dans la citation que je viens de lire, mais qui apparaît en filigrane dans les termes mode littéraire, c'est l'aspect esthétique d'une œuvre. René Devecq a toujours été un amoureux de la langue française, il a toujours aimé les classiques français, et ça en son écriture s'en ressent. Très académique, trop traditionnel, notre auteur... son académisme et son écriture trop traditionnelle sont des raisons probables du désintérêt progressif que lui ont témoigné déjà de son vivant la plupart des lecteurs. Une année après sa mort, un critique roman entérine un avis qu'il y a sur René Devecq et qui ne sera plus tellement changé par la suite. Il y a en René Devecq une probité d'écrivain. La phrase est ferme, le dessin de l'œuvre nettement arrêté, mais ses romans ont trop de froideur. L'artiste est trop préoccupé à bien faire ce qu'il a pour nous émouvoir. La description que René Devecq fait de son univers, qui est principalement Fribourg, est une description d'un univers trop fermé, trop allusif. Il manque d'invention. Il a aussi une incapacité à se renouveler littérairement, thématiquement en son temps. Ce sont des éléments qui font qu'il a également disparu des registres littéraires romans. En plus, après sa mort, aucune étude n'est venue émailler son travail. Il n'avait pas vraiment de groupe d'amis comme ont pu l'avoir d'autres auteurs comme Ramu, Reynolds, Gilliard, Saint-Gria, qui ont aidé à poursuivre, même après la mort de leur ami, à faire poursuivre l'œuvre. La ville même ne s'est pas souvenue après la mort de René Devecq qu'elle avait... peut-être pas un éminent écrivain, mais un homme de lettres, ma foi, fort intéressant. Voilà, j'en arrive à la petite anecdote où, étant enfant, je découvre René Devecq, donc je vais rapidement passer à la suite. Ce que je savais de René Devecq, avant de m'intéresser à lui, et à part le fait qu'il y avait quelques-uns de ses livres dans la bibliothèque de mon père, c'est qu'il avait publié quelques romans à Paris, en l'occurrence quatre. mais aussi des poèmes, des nouvelles et des essais. Il paraissait même faire avoir un peu de critique littéraire dans une revue parisienne prestigieuse. Je savais aussi qu'il était ambassadeur, et pour moi, à l'époque, c'était une fonction à Paris des plus nobles vertus. Quand j'en ai parlé à mon père, mais qui est vraiment ce René Devecq, il riait un peu en me disant que certainement, s'il avait certes été un personnage historique et sa carrière diplomatique ne le dément pas intéressant, voire important, son intérêt littéraire est un peu dénué d'intérêt parce que trop démodé. C'est la réponse que j'en ai eue. Mais mon intérêt était un peu plus loin parce que ce qui m'intéressait particulièrement dans ce sujet, à part que ce soit un membre de ma famille, c'est qu'il fait partie du patrimoine fribourgeois, le lieu où je vis, que ça m'intéressait de faire un travail sur l'histoire de mon canton, sur l'histoire d'un homme qui est né dans ce canton, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit sur lui, et qu'il y a un phénomène toujours très intéressant dans l'histoire littéraire, qui est les auteurs mineurs. C'est toujours intéressant de travailler sur les auteurs mineurs. Ça nous donne une lueur différente pour voir justement pourquoi il y a des auteurs mineurs et pourquoi il y a des auteurs majeurs. En commençant mon travail, j'ai constaté que René Devecq était, en plus d'être un écrivain méconnu, il avait hérité d'une étiquette littéraire dont il lui sera très difficile un jour de se débarrasser. L'histoire a ainsi jugé le personnage, c'est un romancier mineur et un critique sévère. Il y a un peu de faux, il y a un peu de vrai. Je me suis appliqué dans ce travail justement à nuancer tout cela. Dans mon travail, je me suis particulièrement intéressé à la période de sa vie où il était chroniqueur au Mercure de France, où il était donc en charge, il avait une tribune littéraire, où il devait faire des commentaires sur les ouvrages des auteurs romans de l'époque qui publiaient en Suisse et à Paris. Mais ce soir, comme c'est déjà un peu le printemps et que je ne veux pas vous assommer parce que mon travail était quand même pour une certaine partie très technique, j'ai voulu découvrir les intentions secrètes de cet homme de lettres par un autre biais. Et peut-être, mais certainement, on va établir un lien entre l'œuvre et l'artisan, comme on le disait tout à l'heure. Comme fil rouge de ce travail, j'ai choisi de choisir un roman, le premier roman, qui est Jeunesse de quelques-uns, qui est une œuvre essentiellement fribourgeoise, puisque la plus grande partie de l'intrigue se situe à Fribourg. On a malheureusement oublié un peu tous ces romans, mais c'est un roman qui n'est pas inintéressant à lire, puisque pour ceux qui veulent se replonger dans l'univers fribourgeois d'avant la Première Guerre, ce roman est une excellente satire de la société fribourgeoise de l'époque. Ce roman, il l'a commencé en 1913. Il l'a appelé « L'écrasement ». On en retrouve les traces dans les manuscrits qui sont ici, dans quelques cahiers. Mais malheureusement, en 1913, c'est l'époque où il commence sa carrière diplomatique et il doit se rendre à Londres. Et ce travail est arrêté par la guerre. En 1923, il réussit à le faire publier au Mercure de France, qui malheureusement refuse la publication en volume, mais qui le publie en feuilleton. Il trouve là son vrai titre, qui est « Jeunesse de quelques-uns ». Grâce à son ami de Pourtalès, qu'il rencontre justement par le biais des affaires diplomatiques, il trouve un éditeur, qui est l'éditeur Plomb, qui sera son éditeur pour les trois premiers de ses romans. Quand « Jeunesse de quelques-uns » sort, c'est grâce à ce travail qu'il se fait connaître du public. Ce récit est largement d'inspiration autobiographique, et c'est avant tout un roman d'apprentissage. J'ai beaucoup ri quand j'ai lu dans une critique qu'il était comparable à une éducation sentimentale. Toute proportion gardée, parce que ça se situe à l'échelle suisse, ajoute le commentateur. Enfin, le thème de ce roman n'est pas sans nous rappeler non plus l'Aimé-Page de Ramu. Ramu, dans son Aimé-Page, met en scène un jeune artiste qui monte à Paris en quête de reconnaissance. Nous pouvons noter au passage que le thème de l'artiste qui monte à Paris est un thème fréquemment abordé par les romanciers et romans de cette période. Mais quelle est la trame de ce roman ? L'auteur retrace dans ce roman le parcours de Jean de Gady, un jeune patricien fribourgeois qui forme avec trois de ses amis, deux peintres et un écrivain, un petit groupe d'artistes qui ne vit que pour l'art. Les quatre esthètes se sentent un peu à l'étroit dans les murs de leur vieille cité campagnarde, mais de grands projets les animent. Quant à leur réalisation, ils auront des fortunes très diverses. Laupère, peintre torturé, décédera des suites d'un accident de montagne. Bérard n'arrivera jamais véritablement à imposer sa peinture. Et Vaillant, l'écrivain, l'anticonformiste, se coulera dans le moule bourgeois de Fribourg en n'ayant en fin de compte jamais rien écrit de bon. Parmi tous ces personnages, il y a Jean de Gady, qui quant à lui aura une destinée bien plus heureuse puisqu'il réussira à devenir un écrivain reconnu dans les cercles parisiens. Nous avons là, un peu en filigrane dans la trame de ce roman, une des grandes intentions secrètes de René Lévesque, qui est en fait la seule, c'est devenir écrivain. En 1906, quand il sort du collège, il dit à son père « Je serai écrivain et rien qu'écrivain ». Bien sûr, son père n'était pas très content de ce choix, il l'a même un peu forcé à se diriger vers une seconde carrière un peu plus rentable, qui est tout d'abord le droit, qui finira ensuite dans une carrière diplomatique. Mais le personnage de ce roman ne reste pas moins le double littéraire un peu de René Lévesque. Tout comme lui, il a fait des études de droit, il a fait des premiers essais poétiques publiés dans des revues littéraires romandes. Sa vocation, comme je viens de le dire, est également dans le roman combattu par son père. Il rêve de Paris, il obtient un poste de correspondant pour un journal à Paris. Et c'est exactement ce qui est arrivé, si on s'intéresse un peu de près à la biographie de René Lévesque, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Bien que, il faut bien le noter ici, René Lévesque n'a jamais joui en France la même notoriété que son double. Tout comme René Lévesque, c'est un enfant de la fin du siècle. René Lévesque est né en 1887. Il est né dans une famille patricienne. Son enfance se déroule dans un milieu aisé et cultivé. Dans cette petite ville campagnarde catholique et même conservatrice, il ne faut pas l'oublier, qu'est Fribourg. En 1999, René Lévesque entre au Collège Saint-Michel, et pour lui c'est la révélation, c'est l'éveil à la littérature, il découvre là-bas et la littérature antique et la littérature classique, les classiques français. Ces deux grandes cultures sont pour lui d'une importance capitale, puisque c'est un double fond qui conditionnera sa carrière d'écrivain. En effet, pendant toute sa carrière d'écrivain, il ne cesse d'écrire et de dire et de répéter son amour inconditionnel pour l'humanisme classique et pour la langue française. D'ailleurs, dans ses nombreux articles du Mercure de France, où il critique les auteurs romans, et en particulier leur style, il ne cessera de répéter qu'il faut écrire du bon français, que c'est mieux que d'écrire du mauvais suisse. Ceci, il l'a dit également dans ce petit manuscrit très intéressant où il se regarde lui-même dans un miroir. Il dit « Ma culture est purement humaniste et ce sont pourtant des prêtres qui m'en ont fourni la base. Avant même que je vinsse en France et par la seule vertu de leur enseignement, la civilisation humaine sous son aspect intellectuel se confondait avec le bloc indivisible, Grèce, Rome, France. À l'extérieur de ce bloc, tout me paraissait barbare ou pour le moins étranger. » Pour s'en rendre compte, il suffit de se plonger dans ses souvenirs littéraires où il parle de son séjour à Munich. En effet, il n'aimait pas tellement les Allemands et ceux qui ont lu le journal de guerre en ont des preuves encore plus violentes. De sa période de collège, d'ailleurs, c'est son premier travail publié. Il le fait après un travail de collège, c'est une préface sur Salluste, l'auteur latin, et qui montre tout de suite dans quelle direction il se dirige, que c'est plutôt cette culture antique et classique qui l'intéresse. Du collège, il a été marqué par un père, l'abbé Charpine, poète lui à ses heures, qui est en fait le grand initiateur de René Dévêque. C'est lui qui fait découvrir la littérature à René Dévêque. C'est lui qui lui donne cette envie de devenir écrivain. D'ailleurs, il lui dédiera une chronique touchante en 1922, lorsque Charpin décède. Du collège, il retient aussi également un ami, Hiram Brulart, qui est aussi un de nos artistes fribourgeois peu connu, et pourtant il mériterait de l'être, parce que c'est un peintre, à mon goût, très très intéressant. Ce personnage d'ailleurs d'Hiram Brulart se retrouve dans un des personnages du roman, et Charpin, on le retrouvera dans un autre roman de René Dévêque, qui est un fou, revient parmi les sages, où il y a un personnage d'abbé humaniste qui essaye de soigner un quadragénaire qui est en pleine crise entre la chair et l'esprit. Comme beaucoup de jeunes auteurs, et là on retrouve, on peut de nouveau tirer un parallèle avec le personnage principal du roman, René Dévêque fait sa véritable entrée en littérature avec un recueil de poèmes qui s'intitule « Les stèles votives ». Malheureusement, il n'est pas resté dans les annales, mais c'est intéressant de s'y arrêter, puisque ce recueil de poèmes, et surtout la poétique, est constitutif de son esthétique. Ces poèmes, il les a publiés dans la Voile latine, les feuillets, les deux périodiques, fer de lance de la nouvelle génération d'écrivains, à laquelle participera Mur, Reynolds, De Tra. Et il a recueilli tous ses poèmes publiés dans ce texte, dans ce recueil, pardon. Si on jette un rapide coup d'œil, ce qu'on peut en tirer, c'est que, à nouveau, nous sommes en plein classicisme, en plein académisme. Il n'y a pas vraiment d'invention dans cette poésie. Dès les premiers vers, on remarque que René Dévêque se fait un poids d'honneur respecter toutes les lois de la versification, la métrique, la prosodie. Domaine dans lequel les poètes romans, justement par le passé, ont souvent péché. René Dévêque ne cessera de le dire dans ses chroniques. Il cessera de noter les toutes petites erreurs de prosodie ou de métrique que les poètes romans font dans leur poème. Côté thématique également, l'invention n'est pas extraordinaire. Ce sont des thèmes aux tonalités romantiques, comme le temps, la nature, les louanges à sa ville natale, à ses environs, à Paris, à l'idéalisation du poète et à son effort d'écriture. Ce sont des thèmes un peu éculés et malheureusement, ils n'apportent rien de nouveau. Mais le détail de cette poésie, c'est cette constante référence au monde gréco-latin qui nous font ressurgir tous les poètes de la Pléiade, les petits poètes classiques français, ou encore les romanistes qui, au début du XXe siècle, ont tenté de remettre au goût du jour les allusions à l'Antiquité. Si cette vocation de poète, elle fut également combattue par son père, comme dans le roman, et il y a comme une opposition littéraire dans ce combat entre le fils et le père, une opposition entre la littérature passée et la littérature nouvelle. Tout comme son personnage de roman, René Dévêque cherche à aller à Paris, parce que c'est là-bas que la littérature se fait, et ce n'est pas en restant dans les murs de sa petite ville qu'il voit son avenir d'écrivain. Alors il cherche des excuses. Même si son père l'a contraint à commencer le droit en 1906 après le collège, il réussit à convaincre d'étudier à l'école des Chartes qu'il veut devenir historien. En 1907, il part à Paris, mais malheureusement, il échoue aux examens de fin d'année et il doit revenir à Fribourg où il termine son droit. Il termine son droit avec un doctorat qui s'intitule « La représentation diplomatique de la Suisse ». Qui lui ouvre une carrière diplomatique, mais malheureusement, aucun poste n'est vacant. Donc, que fait-il en attendant? Sans être vraiment convaincu, il se décide à faire un stage chez un avocat. Mais comme son personnage de roman, soudainement, il a la possibilité de repartir à Paris, puisqu'un journal lui propose d'être correspondant là-bas. Il y va, mais ce rêve parisien, ce rêve de vivre à Paris, malheureusement de courte durée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit se rendre à Londres. Et à Londres, il est au bord du knockout total, comme il l'écrit. Il ne sait plus s'il doit écrire, il est un peu perdu, mais heureusement, à la fin de la guerre, le voilà de retour à Paris, et sa vie enfin revient où il a toujours voulu aller, dans le Paris littéraire. Sa vie donc aussi, mentalement et physiquement, on le voit entre Fribourg et Paris, et entre cette terre natale qui est Fribourg et la terre rêvée qui est Paris. Pardon. Quand il retourne à Paris après la Première Guerre, il décide soudainement que la poésie n'est plus son terrain de prédilection, mais que c'est le roman. D'ailleurs, il le dit lui-même, quand le langage de la poésie n'est plus le langage que l'on ressent, il faut s'arrêter et passer à autre chose. Cette opposition de Fribourg et Paris, on la retrouve également dans le roman. Tout d'abord, par deux amours, son amour à Fribourg et son amour à Paris, qui appuient cette dichotomie entre les deux villes. À Fribourg, c'est un amour de jeunesse, pour lequel il est prêt à faire des folies, passionnées et raisonnées, comme un poème. La relation qu'il entretient avec une jeune fille, nièce d'un avocat véreux, ennemi de son père, le fait presque courir à sa perte. Cette jeune fille, qu'il surnomme Bérénice, là on a encore un trait qui nous ramène à la littérature classique, devient dans le roman l'incarnation de cette hypocrisie bourgeoise que René Devecq s'ingénie à peindre d'un trait ironique. C'est justement là, à mon avis, l'intérêt du roman, c'est que tout le microcosme bourgeois subit le même traitement, la satire de l'écrivain n'épargne aucun travers de sa ville natale, que ce soit le clergé ou la petite bourgeoisie, la noblesse, etc. Par contre, une fois à Paris, c'est un amour raisonnable qui viendra le sauver de ses égarements de jeunesse. À Paris, il rencontre Fernande, jeune, humble, modeste et travailleuse, qui ressemble d'ailleurs de très très près à son épouse, qui, très loin de l'amour-passion, symbolise la stabilité, la raison, l'exaltation des bons sentiments. Cet amour fleur bleue n'a d'ailleurs pas manqué de faire sourire plusieurs de ses commentateurs. Donc on a un amour adolescent et la poésie qui se trouve en Suisse, et un amour raisonnable et adulte, dirons-nous, qui se trouve à Paris. Ce cheminement initiatique qui mènera le héros à la réussite littéraire, donc le héros de son roman, oppose, comme je viens de le dire, Fribourg et Paris. La petite ville cléricale qu'est Fribourg et sa population à l'esprit bourgeois sont dépeints avec une plume satirique, alors que Paris apparaît comme un mirage merveilleux où tout peut arriver. Cette description d'ailleurs n'a pas manqué de faire sourire un des rares commentateurs de la production romande, mais français, qui est Edmond Jaloux, qui trouve cette description un peu ingénue. C'est vrai qu'on se trouve toujours dans un univers rêvé, presque fantasmé. Pourtant, la juxtaposition de ces deux tableaux est significative du point de vue de l'histoire littéraire, parce qu'il y a toujours un rapport entre la Suisse littéraire et le Paris littéraire, qui est un rapport de dominé et de dominant, qui est intériorisé par l'écrivain roman. Je vais juste faire une petite parenthèse, juste pour expliquer ce que j'entends par là, dominé, dominant, ça a l'air un peu barbare comme terme. Mais à la naissance de l'Europe moderne, en 1848, la Suisse et tous les États voisins ont poussé de conscience nationale, et les intellectuels suisses s'interrogent sur est-ce qu'il y a une littérature nationale, est-ce qu'il nous faut une littérature nationale, puisque souvent les productions littéraires helvétiques sont dénigrées par Paris. L'intelligentsia du moment décide qu'en fait, nous n'avons pas besoin de Paris pour créer notre propre littérature. De toute façon, Paris nous dénigre, donc faisons notre propre littérature nationale. La littérature, donc, dans cette deuxième partie du XIXe siècle, évolue un peu en vase clos. Et je dois dire que ce n'est pas la meilleure production que notre pays ait donnée. René Devecq refuse cet état de fait qui est encore à la fin du XIXe siècle très présent dans tous les esprits. Il souhaite mettre fin à cette Voilà que je ne trouve plus mes mots. À cet isolement littéraire suisse, ce qui l'intéresse, c'est d'être écrivain à Paris et d'être reconnu à Paris. Pour lui, Paris apparaît en fait comme le seul lieu possible à la consécration littéraire. Rester dans son petit pays peut amener au mieux qu'un maigre succès local. Il nous montre ici, dans le roman dont je parle, en termes romanesques, son adhésion aux valeurs culturelles françaises. Adhésion qui se retrouve d'ailleurs corroborée par la dernière scène du roman qui est assez significative. Le roman s'arrête en 1914, la guerre est déclarée, Jean de Gady voyant défiler devant lui le cortège des contingents étrangers qui s'engagent aux côtés des Français, soudainement pris d'un élan d'héroïsme. Comme Sandra, d'ailleurs, dans cette dernière scène de roman, Jean de Gady voit la liste des personnes qui s'engagent aux côtés des Français, il voit le nom de Sandra. Il décide de les rejoindre pour l'idée qui est la plus chère à son cœur, celle de la France éternelle. Cette même idée qui est celle de René Lévesque, qui d'ailleurs, pour ceux qui ont lu son journal de guerre, est omniprésente. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans le petit manuscrit dont je parlais tout à l'heure, René Lévesque fait allusion au début de la guerre et il écrit que lui-même aurait voulu s'engager aux côtés des Français pour défendre cette France si chère à son cœur, mais qu'il n'y a pas été pour cause de myopie. Je ne sais pas si c'est une mauvaise excuse, mais il se sentait peut-être plus utile ailleurs. Il y a aussi un autre roman qui est un roman d'une connaissance de René Lévesque, qui est un roman de Portales, qui est La pêche miraculeuse, où le héros, Paul de Villars, lui aussi, s'enroule dans les forces françaises pour protéger sa terre d'adoption contre l'envahisseur allemand. Mais si Portales, lui, a cherché toujours une assimilation totale à la France, d'ailleurs, il est d'origine française, il sera intégré dans ses droits de citoyen français en 1912, nous ne croyons pas que René Lévesque ait voulu, comme l'ont dit de nombreux critiques, s'assimiler totalement à la France. Nous voyons dans cet acte certaines volontés qui va dans le sens de l'assimilation, mais René Lévesque n'a jamais oublié sa patrie d'origine. Il n'a jamais cessé de dresser des ponts entre la France et la Suisse. Les thèmes de sa poésie, d'ailleurs, en témoignent. Il y a un éloge de Fribourg qui juxte une éloge de Paris. Les thèmes abordés dans ses romans, dans ce roman jeunesse de quelques-uns, nous avons les deux pays en présence, donc un pont entre les deux. Son deuxième roman, qui est une exception, qui est un roman historique, n'entre pas tellement en considération, mais son troisième roman est un roman fribourgeois, où l'action se passe à Paris, même si, craignant qu'on comprenne son roman pour un roman à clé, il essaie de masquer un peu où ça se trouve. Et son dernier roman, Victor et l'étrangère, se passe pas à Fribourg, mais pas très loin, dans une ville qu'il nomme Vergy-le-Château, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Estavayer-le-Lac. Ensuite, dresser les ponts de la France et la Suisse, c'est le but même de son travail au Mercure de France. Je l'ai dit, il doit faire la critique des auteurs romans qui publient en Suisse et à Paris pour les faire connaître au public français. Je ne vais pas me faire une longue parenthèse sur ces chroniques du Mercure de France, parce que j'en ai parlé suffisamment et très longuement dans mon travail. Juste pour ceux qui ne seraient pas, donc René Lévesque a été chroniqueur au Mercure de France de 1913 à 1939. Il avait écrit un petit opuscule qui s'appelle La vie littéraire de la Suisse française en 1912, qu'il a fait se faire repérer par Jean Dumur, un auteur. Louis, qui est un écrivain suisse installé à Paris et qui est travaillé lui-même au Mercure de France. Une telle chronique existait déjà pour la littérature belge. Il y a quelques années plus tard, une chronique identique pour la littérature canadienne en langue française. Toutes ces distinctions, d'ailleurs, nous montrent bien la différence qu'il y a encore entre Paris et différence qui existe encore de nos jours, à mon avis, entre Paris et les autres littératures francophones. pourquoi on a la littérature française qui fait elle-même une chronique, et à côté, dans les littératures étrangères, la littérature belge, la littérature canadienne et la littérature belge. C'est des provinces, en effet. Pour parler un peu de la réception de ce premier roman, qui fut dans l'ensemble bien accueilli par la presse romande, il faut signaler que les échos furent bien plus nombreux en Suisse qu'en France. En effet, il est très difficile d'intéresser un lectorat parisien avec un sujet aussi élevatique. Pourtant, la plupart des chroniqueurs ont relevé des deux parties en France comme en Suisse romande les mêmes qualités de son roman. Un don aigu d'observation, une maîtrise parfaite de la langue, une qualité qui avait déjà été remarquée d'ailleurs lors de la publication de sa thèse de doctorat. La maîtrise des tactiques du roman et un certain don pour la satire. Bien que certains relèvent quelques défauts et que d'autres cherchent dans ce roman psychologique un roman à clé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la critique en général reste assez positive. Les romans se félicitent d'avoir trouvé un René Devecq à la suite de Gonzague de Reynold et de Léon Savary, un auteur qui fait enfin entrer Fribourg dans la littérature. Et les critiques français saluent ce nouveau romancier, dont on attend d'autres œuvres pour pouvoir juger de ses vraies qualités. Pourtant, une constatation et une anecdote viennent un peu ternir ce tableau de réception qui pourrait nous paraître idyllique. 6 mois après l'apparition de ce premier roman, ni la presse ni les revues littéraires ne reparleront de cet ouvrage. Après la mort de l'auteur, j'en ai déjà parlé, aucune étude ne lui sera consacrée. Il y a quelques brèves mentions qui n'excèdent rarement la demi-page dans des rétrospectives ou dans ces petits opuscules qu'aiment particulièrement à faire les auteurs romands pour faire un bref panorama des lettres romandes. Jeunesse de quelques-uns sombre assez rapidement dans l'oubli. Et malheureusement, c'est le triste sort qui attend un peu la totalité de tous les romans de René Devecq. Mais pas que les siens, ce destin ressemble à la grande majorité de ses confrères qui, à l'époque où les maisons d'édition se transformaient en écuries et les auteurs en poulains, on se glorifiait de succès facile et on disparaissait aussi vite qu'on était apparu. Pourtant, avec ce roman, jeunesse de ce premier roman, René Devecq a eu droit aux honneurs à Paris, puisqu'il a été invité au dîner habituel des Amis des Lettres Françaises. Henri Bordeaux, alors académicien, l'avait même dans un pompeux discours salué comme un des plus distingués représentants de la Suisse intellectuelle et un parfait écrivain de la langue française. Malheureusement, une petite anecdote va un peu relativiser tout ça, puisque 6 mois plus tard, j'ai trouvé cette petite note dans les archives ici. 6 mois plus tard, René Devecq se promène au bord de la Seine, où, comme tout le monde sait, il y a de nombreux bouquinistes. Et que trouve-t-il? Un livre intitulé « Jeunesse de quelques-uns » par René Devecq. Il l'ouvre, et que voit-il? La dédicace qu'il a fait à Henri Bordeaux. Ce genre de découverte doit aisément refroidir et relativiser n'importe quel succès. Et c'est bien, bel et bien le succès que va chercher René Devecq. Les intentions secrètes de cet écrivain, le rêve de René Devecq, c'est d'avoir voulu être un écrivain. Un écrivain reconnu en France, reconnu chez lui. Son malheur, son échec, c'est qu'il n'est aujourd'hui plus qu'un document, mais un document très intéressant. Je vous remercie.
Parcours passionnant, mais moi j'ai une question que j'ai envie de poser. Il est quand même pendant 25 ans chroniqueur au Mercure de France pour un Suisse, même si, comme Joséphine Baker, il a deux amours, Paris et la Suisse, mais être à Paris dans une revue littéraire aussi célèbre, je veux dire, il devait quand même être fier de ça. Est-ce qu'il en parle de pouvoir collaborer à cette revue, même s'il n'est pas l'écrivain qu'il a voulu être ou qu'il veut être, d'être parmi, dans la famille, dans la grande famille?
Ben pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le rêve, d'ailleurs, que nourrit la plupart des écrivains romans de cette époque, c'est de trouver en guillemets une tribune en France, dans un journal, quel que soit le journal, plus il est prestigieux, mieux c'est. Mais c'est un peu une... Bien sûr, il en est fier, bien sûr, il est très, très heureux de son travail, mais c'est une position un peu ambiguë. Je dis ça par rapport à la vision qu'ont les Suisses, des Suisses exilés à Paris, qui travaillent à Paris, puisque pour une grande partie des écrivains qui restent en Suisse et qui sont condamnés à rester dans ces frontières, être lus que dans leurs frontières, bien sûr il y a de la jalousie, mais il y a aussi... comment on pourrait appeler ça? Ces gens sont souvent appelés les exilés, ce sont les traîtres, ils ont tourné le dos à leur patrie, etc. Et il y a toujours ce rapport conflictuel, en fait, entre le Suisse qui est à Paris et le Suisse qui reste en Suisse. Mais il en est fier. Voilà.
Il y a une question alors, qui est violemment personnelle. Quand on va sur les traces de quelqu'un de sa famille, comment on en sort? Je veux dire, cette aventure pour toi, Philippe, il y a le bouquin, bien sûr, ça c'est, je veux dire, la trace de papier, le bonheur d'avoir dans ta bibliothèque un livre que tu as écrit, ta thèse, etc. Mais le fait d'avoir cheminé dans la vie de ce personnage qui fait partie de ta famille, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que finalement, je vais te dire pendant la présentation, Philippe a lu il y a quelques années, dans le concours des jeunes auteurs de Suisse romande, je n'ai pas trop les marques, Espace 2, il a été un des lauréats. Donc il y a peut-être chez toi une vocation d'homme de plume, hein, tu es dans la trace, l'ombre, le désir de ce que fut ce personnage de ta famille. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a fait de te plonger là-dedans et puis à la fois de découvrir, d'apprendre l'itinéraire de ce personnage?
Très pratiquement, ce que ça m'a apporté, c'est une licence. Et on sait, je pense que tous ceux qui ont dû faire un mémoire de licence, on sait par quelles affres on passe parfois, parce que c'est à trois envolées longues et fastidieux, et que des fois on n'en peut plus, et qu'on en a marre, et qu'on préfère tout jeter. Mais c'était un travail très intéressant, ça m'a surtout permis de découvrir une période littéraire que je ne connaissais pas du tout, et en fait ça m'a permis aussi de sortir un peu des sentiers battus de ce qu'on étudie à l'université, puisqu'on se concentre généralement, en tout cas en littérature, plutôt sur les classiques, même s'il y a un grand intérêt à s'intéresser, comme je l'ai dit avant, aux auteurs de moindre importance pour justement donner un éclairage nouveau sur une période donnée. Concernant ma vocation, on en reparlera quand j'écrirai un petit manuscrit qui s'intitulera sur moi-même et que je donnerai à Monsieur Lézibar pour qu'il le mette dans un carton.
mais reste quand même quelque chose d'assez fascinant, parce que sur moi-même, c'est une autobiographie. Aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas plus à la mode que les autobiographies. Donc, le fait d'avoir, à l'époque, c'est-à-dire 1900, sur ma mamie, il l'a écrit en
1932,
il y avait quelque chose de très très important, finalement, en tout cas, une façon de percevoir la littérature qui était presque de l'avant-garde par rapport à ce qui se faisait à l'époque, où on avait très très peur, le moi était à ça, on dérobait toujours soit dans le roman, soit par des moyens littéraires différents, mais rarement on osait mettre le moi en tête.
Bon, l'autobiographie existe, je ne peux pas dire de tout temps, parce que c'est un peu beaucoup dire, mais il y a quand même de nombreux ouvrages où les gens se mettent en scène leur vie. Avant-garde, je ne crois vraiment pas du tout, parce qu'il y a des autobiographies qui ont été faites bien avant lui, qui sont restées dans les annales. Non, ce qui est intéressant là, c'est ce qui est intéressant surtout dans ce petit texte, et ce petit texte, en fait, devait faire l'objet d'un livre, un mémoire. Ce projet ne s'est pas réalisé dans ces années-là, puisque l'éditeur avec qui il voulait collaborer, malheureusement, a décidé de plus continuer la collection qu'il faisait. Mais ce projet a été réalisé 9 ans plus tard dans un livre qu'il a intitulé Souvenirs littéraires, qui était aussi un genre assez à la mode, se mettre en scène, parler de soi. Et c'est toujours à double tranchant, c'est très, très, très ambigu, parce que l'auteur, quand on se met en scène, quand on se dépeint en tant qu'homme de lettres, c'est toujours très difficile d'être entre la fausse modestie, la vraie vérité, et voilà.
Et s'il y avait un des romans de René Dmec que tu pourrais conseiller aux membres de l'auditoire qui ne l'ont pas lu, parce que finalement tu embrayes le discours de papa en disant le roman de René Dmec est un peu désuet, mais quel est celui que tu conseillerais? Celui qui t'a apporté à toi le plus de plaisir? Alors, deuxième degré, naturellement.
Celui qui a apporté moi le plus de plaisir, c'est le roman dont j'ai parlé, qui était un peu un roman à part, qui s'appelle Le Roi Théodore, qui est un roman historique, une grande fresque, qui retrace le destin fabuleux d'un Obero-Westphalien qui a été pendant 8 mois roi de Corse. Que dire? Mais aimer un roman, c'est une affaire tellement personnelle que c'est un peu difficile. Tous sont à lire. Pour ceux qui s'intéressent à cette vision de la vie, les microcosmes fribourgeois d'avant, devant la Première Guerre, c'est très intéressant de lire Jeunesse de quelques-uns ou encore Un fou revient parmi les sages. Pour ceux qui s'intéressent à la satire d'une petite société villageoise, je leur conseillerais de lire Victor et l'étrangère. Et pour ceux qui aiment vraiment un peu d'aventure, comme ça, un peu. Je leur conseillerais Théodore. Moi, personnellement, celui qui m'a le plus plu, c'est le roi Théodore, parce que c'est peut-être celui qui est le plus en dehors de cette problématique. C'est pour lui, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'était pour lui un amusement de faire ce livre. Voilà. Et sinon, il y a encore, dans le domaine de la fiction, il a édité quelques nouvelles. En l'occurrence, il y a 4 nouvelles qui sont recueillies sous le titre « Femme », qui sont en fait, à mon goût, son travail le plus réussi. Le fait de sortir du roman et des canevas romanesques un peu académiques, comme ça, un peu Anatole France, on le voit un peu plus libéré dans son écriture, dans Femme. Voilà.
Est-ce que René Dmec a été en amitié avec de grandes figures poétiques françaises?
Alors là, je vous citerai encore une anecdote. Il admirait beaucoup de poètes français. Il a rencontré beaucoup d'artistes français. D'ailleurs, quand il était à Paris, il se targue d'avoir fréquenté les artistes Rive Gauche, la Closerie des Lélélas, Apollinaire et d'autres artistes. Mais en fait, l'impression qu'on a quand on voit René Dmec voler dans ce Paris qu'il fantasme un peu toujours, hein, on a l'impression qu'il est partout, qu'il connaît tout le monde, et en fait qu'il est tout seul, qu'il est nulle part. Ça, l'anecdote que je voulais citer, c'est qu'il admire énormément Paul Fort. Et d'ailleurs, à l'époque, à Fribourg, le frère de René Dmec, Jean Dmec, organisait des conférences à la Grenette où il invitait des poètes français, des écrivains pour faire des conférences. Il l'avait invité d'ailleurs Paul Fort. Mais l'amusant de la petite anecdote, c'est qu'il le raconte dans ses souvenirs littéraires. Il se trouve une fois dans cette société d'artistes Rive Gauche avec son petit volume de poésie dans la main. Il le donne à Paul Fort pour le lui faire lire. Et je crois que je ne sais plus comment ça se termine, mais. Il me semble que la fois suivante où le revoit Paul Fort, il lui adressait un regard bienveillant. Voilà. Oui.
Je voulais vous demander quel regard porte Philippe Debec en 2003 sur les jugements de René Debec sur Ramu. Est-ce qu'on sait que Ramu est très à la mode actuellement, il est entré dans la Pléiade, il y a un numéro de la rue, qui est un numéro sacré. Comment vous ressentez la chose?
Comment je ressens la chose? J'adore Rameau. Et étonnamment, je vais dire une chose très étonnante, René Lévesque aussi. Et même s'il a énormément critiqué le style de Rameau, il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'était pas le seul dans cette catégorie. Il y a beaucoup de gens qui avaient le même avis que lui. Mais bon, moi, l'avis que je pose sur les jugements de René Lévesque sur Rameau sont plutôt de l'ordre sociologique. J'ai essayé de remettre ça dans le contexte et je me suis rendu compte qu'en fait, ces avis n'étaient pas si différents d'une grande partie de la critique de l'époque. C'est clair que maintenant, il y a des choses qui peuvent... La manière de le dire, le pointillisme de René Lévesque. Mais c'était aussi une manière de faire à l'époque. On éreintait comme ça facilement un auteur. Mais je redis ce que j'ai dit en début. René Lévesque aime Rameau et il le dit haut et fort. Malheureusement, ce dont on se souvient, c'est les critiques qu'il a pu lui faire. Et malheureusement, pas le fait qu'il l'a dit haut et fort et très vite. Qu'on était là en face d'un des plus grands auteurs que la Terre romande avait porté. Alors, c'est amusant, d'ailleurs, j'ai dû m'intéresser à ce problème. C'est le même problème d'ailleurs pour Amiel, mais on oublie aussi que René Lévesque, ce n'est pas que son avis sur le style de Rameau, son avis négatif sur le style de Rameau, son avis assassin sur Amiel. Mais c'est aussi une foule d'autres avis sur une pléiade d'auteurs romans. Et sur certains d'ailleurs, qui sont avec un jugement d'une acuité assez étonnante. Il y a d'ailleurs dans ces chroniques du Mercure de France une dithyrambique sur Sandrard qui est assez intéressant. Mais en fait, c'est pas ce qui est intéressant dans justement la chronique littéraire, parce que c'est un genre un peu difficile, parce que c'est facile de critiquer ce que le chroniqueur dit est faux. Mais ce que le chroniqueur dit, il le dit un jour d'année, et c'est pas censé être une étude universitaire. On voit les chroniqueurs dans les journaux à l'heure actuelle, ils reçoivent leurs livres, ils le lisent, ils font leurs critiques. Mais si on les compile à la fin et qu'on les regarde en son temps, on se dit « mais est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il s'est trompé ?» On remarque que souvent on se trompe. Et il faut bien regarder en vue que ces chroniques littéraires ne se veulent pas des essais, des études approfondies, et que justement son petit opuscule sur Rameau est une collection de ces chroniques littéraires. Et que par la suite, après la publication de ce livre, il a encore rédigé d'autres et d'autres et d'autres chroniques sur lui qui ne font pas partie du livre, où la vie se nuance, il revient, ça dépend des œuvres en fait. Mais c'est très drôle parce que c'est aussi une chose qui m'a marqué quand j'ai fait ce travail. On a voulu faire de René Lévesque un critique sévère et injuste. Sévère parce qu'il est sévère avec Rameau, injuste parce qu'il critique Amiel, mais bon là ça n'a plus tellement grand chose à voir avec la critique littéraire, c'est plutôt de l'ordre du pamphlet. Mais on oublie aussi souvent qu'il y a derrière un autre travail, et c'est très intéressant de voir s'il a des jugements parfois complètement faux et absurdes, on est bien d'accord, mais des fois d'une justesse concernant certains auteurs, c'est extrêmement étonnant.
Voilà. Merci Philippe. Je vous en prie. Pour ce partage, j'allais dire, de ce parcours, ton travail, cette aventure de René Lévesque. Merci infiniment. Voilà. Merci.